Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Michel Taube. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et vous avez fondé, vous animez le site internet Opinion Internationale. Alors que ce soir, Vladimir Poutine ouvre une bouteille de vodka ou peut-être de champagne pour fêter sa victoire à l'élection présidentielle, réélection avec 88% des voix, le chiffre vient de tomber, la guerre en Ukraine continue d'agiter la classe politique en France. Mardi, les députés ont été amenés à voter sur le soutien à apporter à l'Ukraine dans la foulée de l'accord de sécurité conclu entre Paris et Kiev. Gaëlle Braun-Pivet est alors au perchoir.
Qui soutient l'Ukraine en France ? Pour l'adoption, 372 contre 99.
Et ce vote a donné lieu à une passe d'armes entre le Premier ministre Gabriel Attal et Marine Le Pen du Rassemblement National.
Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, mais solennellement, est abjecte.
Être pro-Poutine, c'est pas être anti-Macron. Être pro-Poutine, c'est être pro-Poutine, comme vous l'avez été ces dernières années, dans toutes les prises de position qui étaient les vôtres.
Ensuite, le président de la République a pris la parole à plusieurs occasions pour dire ceci.
Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix. C'est choisir la défaite.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre.
Et aujourd'hui, dans les colonnes du journal Le Parisien, le chef de l'État déclare que des opérations au sol en Ukraine par les Occidentaux seraient peut-être nécessaires à un moment donné, tout en affirmant qu'il ne le souhaite pas. Le commentaire de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, sur Europe 1 ce matin.
Je pense que ces propos sont irresponsables et contre-productifs. Parce que le président de la République prétendait en quelque sorte vouloir créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire mettre ou insécuriser Vladimir Poutine. Le résultat qui a été produit, c'est le résultat exactement inverse, puisque vous avez à peu près l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'ensemble des pays de l'OTAN qui ont dit qu'il n'est pas question pour nous d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc en fait, plutôt que de créer une ambiguïté stratégique, ça a levé l'ambiguïté stratégique. Et s'il y a quelqu'un qui a rendu un immense service à Vladimir Poutine, c'est bien le président de la République française, puisqu'il a montré la division de l'Union européenne, la division de l'OTAN sur ce sujet.
Raphaël Glucksmann, qui pour les élections européennes est tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique, était sur BFM à midi. Il commente lui aussi les propos du chef de l'État.
Emmanuel Macron a raison de souligner le caractère gravissime de la situation. Une défaite de l'Ukraine, ce serait la fin de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du continent européen pour des décennies. Ce qui se joue, ce n'est pas simplement l'avenir de l'Ukraine, c'est notre avenir à toutes et tous. Et donc, ce n'est pas simplement par solidarité vis-à-vis des Ukrainiens qu'on doit les aider à défaire l'armée russe, mais c'est aussi par conscience de nos intérêts vitaux. Ce que les Ukrainiens nous demandent et ce que la situation exige de nous aujourd'hui, ce n'est pas d'envoyer des troupes sur le terrain. Personne aujourd'hui ne demande aux jeunes Français d'aller mourir pour Kiev ou pour Odessa. Il lance un débat aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être.
Alors, que faut-il faire ? Que faire à la place d'Emmanuel Macron ? Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sur France 3 a son idée.
Si c'était moi le président de la République, je ne m'y prendrais pas du tout comme ça. J'essaierais de me dire comment peut-on entrer dans la paix, au lieu de me demander comment on va faire pour entrer dans la guerre. Les Russes sont là depuis 2 ans à s'épuiser et à perdre du monde. Les Ukrainiens également. Par conséquent, je pense qu'il y a un espace pour discuter. Monsieur Macron l'a dit à Manuel Bompard dans la rencontre à l'Élysée, il a dit 2 informations essentielles. Premièrement, les Russes sont prêts à un cessez-le-feu. Il dit oui, c'est pour reconstituer leurs armes. Oui, ben, peut-être bien, mais en attendant, c'est un cessez-le-feu. Et d'accord. Deuxièmement, Zelensky sait qu'il en passera par des référendums des populations concernées si les frontières venaient à être renégociées. Nous avons un point de départ. Il y a donc un chemin pour la paix. Et menacer Poutine, comme est en train de le faire Monsieur Macron, pardon de vous dire les choses crûment, et elles me cuisent.
À présent, vos analyses, Michel Taube, du site Opinion Internationale. Ce que dit Emmanuel Macron vous inspire une réminiscence et vous faites un parallèle.
Oui, c'est une chose évidemment de soutenir l'Ukraine et je pense que l'opinion publique est très très favorable au soutien à l'Ukraine. Mais le problème, c'est que là, Emmanuel Macron, depuis 15 jours, court après une petite phrase qu'il a prononcée qui a mis tout le monde en rogne, même les partisans du soutien le plus inconditionnel à l'Ukraine, c'est-à-dire d'envisager une intervention de troupes françaises, parce que c'est ça qu'il voulait dire, en Ukraine. Ça me fait penser effectivement au 10 juin 2021. Lors d'une conférence de presse sur le G7 et l'OTAN, Emmanuel Macron, à la surprise générale, annonce que la France va se désengager de Barkhane au Mali. Et il fait une annonce qu'il n'a pas du tout préparée, qu'il n'a pas préparée avec ses partenaires internationaux. Et grosso modo, ça ouvre la boîte de Pandore et ça crée des problèmes considérables pour la France au Sahel. Et bien, il s'est passé là, il y a pendant 15 jours, exactement la même chose, à cause d'une petite phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer. Dans l'intérêt, j'ai envie de dire, de nos alliés ukrainiens, il met le feu aux poudres, il met le feu aux poudres dans les capitales européennes, il met le feu aux poudres dans la vie politique française. Écoutez, il y a 3 semaines, on a commémoré les 2 ans du déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y a eu un sommet à l'Élysée de nombreux chefs d'État européens pour soutenir l'Ukraine. Était-il nécessaire, 3 semaines après, de faire un débat à l'Assemblée nationale ? Oui, uniquement parce que le président de la République a prononcé une petite phrase qu'un chef d'État ne devait pas prononcer. Ce n'était pas le moment de faire craindre aux Français une intervention militaire, ce n'était vraiment pas le moment.
En tout cas, ça fait 2 fois que la guerre en Ukraine percute le calendrier électoral en France.
Ah, complètement. Il faut se rappeler quand même, c'était avant-hier. En 2022, l'élection présidentielle en France, les cartes ont été totalement rebattues au lendemain de l'intervention russe en Ukraine. On a vu des candidats comme Éric Zemmour complètement dévissés. Et effectivement, toutes les forces politiques, tous les candidats à l'élection présidentielle ont dû se positionner par rapport à la question de la guerre. Et là, pendant 15 jours, on a eu un peu le même scénario, c'est-à-dire que chaque élu est sommé de se positionner par rapport à l'Ukraine. Je ne suis pas certain que ce soit forcément utile pour, encore une fois, renforcer le soutien à nos alliés ukrainiens, mais c'est ce que l'on constate. Alors, je vais vous dire, c'est peut-être tout simplement parce que nous sommes en période électorale, que les élections européennes arrivent et qu'il est peut-être de l'intérêt de la Macronie, qui est quand même en grande difficulté dans les sondages, de faire remonter la question de l'intervention militaire. Et encore une fois, lorsqu'un chef d'État est un peu en vingt en guerre, c'est parfois bon pour dans les sondages. Et donc c'est un peu peut-être le scénario qu'ils veulent rejouer, c'est parler plus de l'Ukraine pour moins parler d'autres sujets qui fâchent et qui font que la Macronie, encore une fois, est très en retard dans les sondages par rapport au Rassemblement national.
Michel Taube, dans l'histoire politique de la France, quand est-ce que l'actualité internationale comme celle-ci pèse sur la classe politique et la diffuse ?
Lorsqu'il y a des guerres dans l'actualité internationale, ça arrive toujours. Moi, je me souviens de la première guerre du Golfe, dans laquelle la France, présidée par François Mitterrand et dont le premier ministre était Michel Rocard, la France avait décidé de soutenir l'intervention américaine en Irak pour libérer le Koweït. Et au lendemain de cette guerre, en 1991, quelques semaines après, Mitterrand s'était séparé de Michel Rocard, Premier ministre. Ça n'était pas la seule cause, mais cela y avait contribué. Et donc, effectivement, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des conflits, effectivement, cela pèse sur la vie politique française. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal parce qu'en France, plus que dans d'autres pays démocratiques, c'est le chef de l'État qui a les clés de toute intervention militaire. Et donc forcément, toute intervention internationale revêt immédiatement un côté très politicien, puisqu'encore une fois, un seul homme, une seule femme, mais là en l'occurrence c'est un seul homme, peut décider d'une intervention militaire. Donc c'est très très politique et très politicien.
Votre commentaire à ces 2 phrases. Veut-il faire la guerre à la Russie ou occuper l'espace politique en pleine campagne des européennes ? C'est ce qu'écrit le patron des LR, Éric Ciotti, sur les réseaux sociaux. Question à laquelle la tête de liste du RN, Jordan Bardella, répond sur les mêmes canaux. Le président utilise la guerre à des fins de politique intérieure avant d'ajouter cette forme de légèreté, d'irresponsabilité, de cynisme à de quoi inquiéter les Français.
Je crois que c'est la formule est peut-être appropriée, c'est de bonne guerre pour un dirigeant politique d'utiliser tous les moyens de gagner quelques voix. Donc oui, on est dans un contexte d'élection européenne. Je pense que l'intervention en Ukraine fait partie des grands enjeux des élections européennes. Le chef de l'État ne va pas s'en priver. Après, l'essentiel, c'est comment peut-on soutenir l'Ukraine ? Comment peut-on éviter la défaite de l'Ukraine ? Comment peut-on éviter la victoire de Poutine ? Vous avez rappelé la réélection, entre guillemets, il faut employer de très nombreux guillemets, de Vladimir Poutine qui a
88%
été... c'est évidemment une élection de maréchal et c'est une élection qui est quand même très largement fictive. Donc effectivement, l'essentiel, c'est comment soutenir l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que cette séquence politique que nous venons d'avoir pendant une et deux semaines et vraiment consolider le soutien de l'opinion publique française à l'Ukraine. Et c'est ça peut-être le plus dommageable dans cette séquence où en fait Emmanuel Macron a pratiqué une forme de mauvais en même temps par lequel il a dû se justifier en permanence des propos qu'il a tenus, propos qu'il a réitérés ce matin, mais qui sont encore une fois largement des effets de manche.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
15 jours après Jordan Bardella et une semaine après la majorité et Valérie Hayer, c'était hier au tour des Insoumis et de Manon Ombry de lancer officiellement leur campagne pour les européennes. Le meeting a eu lieu au parc des expositions de Villepinte et Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il serait en fin de liste et qu'il ne sera donc pas élu. Il a également dit ceci à la tribune.
Oui, on a le droit de dire que l'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027.
Réponse en quelque sorte de Clément Beaune à la mi-journée à la télévision.
Il ne faut pas tout mélanger. C'est une élection nationale, donc c'est projet contre projet. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Certains voudraient jouer une présidentielle, un match retour de la dernière présidentielle ou un match anticipé de la prochaine. Ce n'est pas ça l'enjeu. On va élire, c'est la démocratie, 81 députés européens, députées européennes de différentes sensibilités politiques qui vont devoir rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait pendant 5 ans pour ceux qui étaient candidats déjà députés et pour les 5 ans qui viennent sur l'agriculture, sur l'écologie, sur la défense.
Alors à l'inverse, c'est ça le sujet.
Clément Beaune du Parti Renaissance, le parti présidentiel, à propos de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui affirme également que, je le cite, c'est la première fois que cette élection européenne prendra la signification particulière d'un vote de mi-mandat. Michel Taube, est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Alors oui, d'autant plus que toute élection de mi-mandat est toujours très très difficile pour le pouvoir en place. Et donc les sondages l'annoncent déjà. Ça va être très 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 difficile pour le parti Renaissance d'être en tête et devant le Rassemblement National le 9 juin. Enfin, laissons les électeurs voter. Non, effectivement, je pense que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de nationaliser le débat. C'est de parler le moins possible d'Europe et le plus possible d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit hier dans un discours d'ailleurs. Sur la forme, on a retrouvé le tribun Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'il se prépare lui-même pour 2027 et que son intérêt à lui, c'est effectivement de faire l'élection du 9 juin un vote pour ou contre Emmanuel Macron, pardon, pour ou contre Manon Ombry et Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il pourrait être sur les affiches électorales, puisqu'il est candidat en dernière position sur la liste de Manon Ombry.
Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait 22% lors de la dernière présidentielle, il veut donc aller chercher des électeurs, parce que ce score est inatteignable au mois de juin. Il explique, je le cite, que c'est l'abstention des jeunes et l'abstention des quartiers populaires qui permet aux autres de se pavaner et de faire les malins. Donc le réservoir de voix de LFI dans cette élection européenne, ce sont les jeunes.
Absolument, et d'ailleurs, c'est une nouveauté du code électoral depuis peu d'élections. Les jeunes et tout Français qui n'est pas inscrit sur les listes électorales peut encore s'inscrire jusqu'à début mai. Donc ça, il faut le savoir. Et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, de LFI, qui est une stratégie très bien rodée, qui mobilise des moyens considérables, c'est d'appeler effectivement ces jeunes à ne pas s'abstenir, déjà à s'inscrire sur les listes électorales et à aller voter. Alors ça sera dur pour les élections européennes parce qu'encore une fois, c'est difficile de voir quels sont les enjeux du quotidien d'une telle élection. Mais il y a une stratégie délibérée de LFI qui, à mon avis, très intéressante et qui va surtout porter ses fruits en 2027 pour effectivement amener une nouvelle génération de jeunes Français à s'inscrire sur les listes électorales, à voter. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 semaines, LFI a fait une campagne qui a marché très fort en termes de communication, qui désignait telle personne qui vote. Et vous, est-ce que vous votez ? Donc il y a un choix très important de ce côté-là par LFI.
Alors cette semaine, François Bayrou, le président du Modem, a déclaré que dans le cadre de cette élection européenne, s'en prendre au RN, au point d'en faire le seul enjeu de la campagne pour les élections, c'est lui faire un cadeau. Sur France 3, il a été demandé tout à l'heure à Clément Beaune de dire son avis.
Après, combattre le Rassemblement National, ça se fait en dénonçant ses lacunes, ses manquements, ses mensonges et ses trahisons, qui je crois sont nombreuses, mais ça se fait aussi.
Ça se fait aussi. Il nous en manque un morceau. Bon, mais c'est pas bien grave. Haro, sur le Rassemblement National, est-ce que c'est une bonne stratégie, Michel Taube ?
Je pense que ça fait déjà longtemps que la diabolisation du Rassemblement National ne marche pas, ne marche plus. Ça a été le cas, on se souvient de 2022, où vous aviez 1 million de Français dans les rues de France entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen s'était inscrit à la surprise générale. Mais là, on n'est plus dans cette époque. Donc moi, je ne crois plus à l'efficacité de la diabolisation. Et pour dire les choses autrement, en fait, le choix qui est fait par Emmanuel Macron mais aussi par Marine Le Pen et Jordan Bardella, il ne faut pas se leurrer. C'est en fait de faire croire aux Français à un vote utile. Le vote utile, ce serait de voter pour les nationalistes, pour le Rassemblement national de Jordan Bardella et pour ceux qui sont pro-européens, pour la liste de Mme Hayé. Voilà ce que l'on voudrait inscrire dans l'esprit des Français. Après, il y a de nombreuses listes qui sont candidats. Et donc, effectivement, est-ce que ce vote utile va jouer jusqu'à la dernière minute? C'est en tous les cas le choix, l'espoir des deux camps et la Macronie et le Rassemblement national.
J'ajoute que les sondages donnent globalement à peu près 30% pour le Rassemblement national lors du vote du 9 juin. Laurent Marcangeli est député du parti Horizon. Il appartient à la majorité présidentielle et il veut que la loi votée sous la présidence de François Hollande sur le cumul des mandats, que cette loi change. Il l'a dit dans l'hémicycle.
Je pense faire partie des rares députés qui ont connu la loi de limitation du cumul des mandats votée en 2013. Est-ce que la loi de 2013 a permis de rétablir la confiance dans la classe politique? Réfléchissez un peu et agissez avec votre cœur et avec votre cerveau, ça changera un peu.
Alexis Corbière, le député LFI, s'inscrit lui en faux.
La défense du parlementarisme doit nous amener à demander plus de pouvoir et certainement pas la dilution de l'activité du député sur notre mandat.
Quant à Sylvain Maillard du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, il ne veut pas revenir a priori sur la loi, mais il se retrouve à devoir composer.
Il faut que nous puissions aller plus loin sur ce débat sur le cumul. Dans les semaines et les semaines qui viennent, on fera des propositions avec Horizon, avec le Modem.
Et Clément Beaune, qui était lui aussi membre de Renaissance, est catégorique et veut déplacer cette question.
Pour être très clair, je suis contre revenir sur le non-cumul des mandats, et j'ai voté contre, je l'assume, cette proposition de loi. Il faut se poser des questions sur le fonctionnement du Parlement. Est-ce que nos mandats de députés sont parfaitement exercés? Est-ce qu'on a par exemple assez de moyens de contrôle du gouvernement? Est-ce qu'on a assez de collaborateurs? Pas pour faire de l'argent, mais pour agir. Un parlementaire français, il a 3 collaborateurs en moyenne. Un parlementaire américain, il en a 30. Ça, c'est des vrais débats sur le fonctionnement du Parlement. Je préfère qu'on ait cela.
Michel Taube, du site Opinion Internationale, revient l'argument de la déconnexion des élus nationaux avec le terrain. C'est-à-dire, maire, c'est un mandat de terrain et député, un mandat national.
Non, je pense qu'un bon député, c'est également un député de terrain. C'est quelqu'un qui connaît ses électeurs. Je pense qu'effectivement, c'est un peu un faux débat. Pourquoi un faux débat? Parce qu'en fait, c'est une arlésienne. Je pense que vous en avez certains, effectivement, qui voudraient pouvoir cumuler. Mais je ne vois pas aujourd'hui de majorité suffisamment solide pour faire passer cette idée. Je rappelle qu'il y a d'autres arlésiennes dans la vie politique française, notamment la question de la proportionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, qui rappelait ces derniers jours, d'ailleurs, que c'est pas la peine de modifier la Constitution pour cela, qu'on pourrait enfin introduire une petite dose de proportionnelle dans l'élection des prochains députés, d'ailleurs même pour 2027, sans changer la Constitution. Ça rapprocherait peut-être un peu plus l'Assemblée nationale de l'ensemble du périmètre et du prisme des opinions publiques qui sont portées aujourd'hui en France. Mais bon, honnêtement, c'est des questions que je vois mal aujourd'hui avancer, notamment pour une question, un petit rappel, la majorité qui en interne est divisée sur ces questions, elle est de toute façon relative. Et donc, elle n'a pas tous les leviers pour prendre toutes les décisions.
Une dernière question. Est-ce que cette question, justement, du cumul du mandat peut fracturer le camp présidentiel? Puisqu'on voit bien, c'est Horizon et de l'autre côté, Renaissance.
Mais
qui est
complètement.
Pas d'accord.
Et c'est pour ça que je ne crois pas que cette proposition d'Horizon fera fortune, ira loin. Parce qu'encore une fois, la Macronie, qui a pour l'instant échappé, encore une fois, à cette période des frondeurs, rappelez-vous, sous François Hollande, où le quinquennat avait quasiment explosé en vol avec de très nombreux frondeurs. Là, pour l'instant, la Macronie, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle fait face, elle n'a pas trop de frondeurs. Donc moi, je ne vois pas sur des questions comme ça des facteurs de division se multiplier. Il y a déjà assez de problèmes à gérer pour le chef de l'État et le Premier ministre avec sa majorité relative.
Merci pour ces analyses et commentaires. Michel Taube, politologue et fondateur du site Opinion Internationale. C'était Dimanche Politique, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale et sur ses applications radio.